Ce matin, la semaine dernière, on a débuté une série de deux semaines qui se termine ce matin avec sur l'épître de Philémon, qui est un seul chapitre. Dimanche prochain, je vous invite à être là. On va avoir, c'est un invité, parce qu'il fait partie de la maison et c'est quelqu'un de l'église, mais c'est Jérémie Vitrano qui va nous apporter le message dimanche prochain. Donc, soyez parmi nous. Alors, on va lire à compter du verset 8 dans Philémon. C'est pourquoi, bien-aimé, que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient. C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été utile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie. Et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, et il sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je le rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. La semaine dernière, je vous ai dit, soyez là, parce que je ne vous ai pas donné le contexte de Philémon, je vais vous le donner ce matin. Parce qu'en fait, la semaine dernière, comme on a vu dans plusieurs lettres de l'apôtre Paul, au début d'une lettre, l'apôtre Paul va avoir des salutations fraternelles, amicales, émotionnelles même, et il va être reconnaissant envers une personne, une église, il va faire des prières bien spécifiques pour les situations des gens, parce qu'il connaît les gens, il connaît l'église à qui il s'adresse. Et une fois que les prières sont terminées, une fois que les reconnaissances sont faites, lisez le reste de chacune des épîtres, là, ça part, là. Là, il se gâte, là. Et c'est là que ça... Il finit par arriver dans le vif du sujet, et c'est là où on est ce matin. Pourquoi Paul écrit à Philémon? C'est son ami, on l'a vu la semaine dernière, c'est son ami. Il va écrire à un ami... Et des fois, parler, écrire à un ami, c'est pas nécessairement toujours dans le but de c'est juste pas juste pour sa fête. En fait, si vous avez des amis proches puis vous lui écrivez ou vous l'appelez juste à sa fête, tant qu'à moi, c'est pas un ami, c'est une connaissance. Mais là, c'est quelque chose de très très personnel, parce que la clé, c'est une personne. La raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit à Philémon, c'est une personne, Onésime. Mais c'est qui? Ce gars-là, avec ce nom bizarre-là. 2022, personne n'appelle son fils Onésime. Si j'avais un fils, je pense que pour le fun, je l'appellerais Onésime, là, aujourd'hui. Juste pour... Il arrive au secondaire, hein? Mes parents m'aimaient pas. Ils m'ont appelé Onésime. Mais Onésime, c'était qui, en fait? Tu sais, des fois, souvent j'entends ça, c'est comme, ah, moi, je vivrais dans le temps des actes, des apôtres, dans ce temps. À ce moment-là, là, ça, c'était le bon temps. Ça, là, Dieu agissait, Dieu était présent, puis là, tout était... Mais à ce moment-là, il y avait de la ségrégation, il y avait du racisme, de la discrimination envers les femmes, envers des gens qui étaient moins nantis, et il y avait de l'esclavage. Ayant dit ça, maintenant, qui veut vivre dans le temps des actes? Putain! Et bien que Philémon, justement, était probablement quelqu'un de très, très nantis, parce que quand tu avais un esclave, c'est parce que tu avais de l'argent, malheureusement. C'est pas mal encore comme ça aujourd'hui. Ouh! Ouais, c'est ça qui se passe. Un peu partout dans le monde, ça existe encore. Onésime était l'esclave de Philémon. Philémon a accepté le Seigneur. C'est devenu l'ami de Paul. Et là, on ne discourra pas sur le fait que, « Hey, Paul, come on, là. Pourquoi tu lui as pas dit de laisser faire des esclaves? Ça ne marche pas. » Pour ceux qui estiment Paul comme étant le meilleur de tous, il y avait ses défauts aussi. Mais Onésime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de mal. Il a volé son maître et il s'est poussé. C'est ça qui s'est passé. Onésime a volé Philémon, il s'est sauvé à Rome. Et savez-vous quoi? Vous pouvez vous sauver, peu importe où vous voulez sur la surface de la terre. Peu importe que vous vous cachez de vos problèmes, vos manquements, vos péchés, vos fautes. Dieu va vous retrouver. C'est ça qui se passe. Et en fait, pendant que Onésime volait Philémon et qu'il s'est poussé à Rome, savez-vous qui l'attendait à Rome? Paul. Sans vraiment connaître Onésime. Et finalement, Onésime a croisé la route de Paul et Paul lui a présenté Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tadam! Onésime a accepté le Seigneur à Rome. Et là, Onésime, il a reconnu ses torts. Onésime, il a dit, non, ça n'a pas de bon sens. Et Paul va écrire à Philémon, Philémon, j'ai retrouvé ton ami Onésime qui t'a volé, qui s'est poussé. Maintenant, c'est mon ami aussi. Philémon, il ne devait pas croire à ça. Il fait comme, oh, come on. Onésime a accepté le Seigneur. Tu sais, des fois, il y a des gens pour lesquels on prie et on veut qu'ils acceptent, tu sais, dans nos familles, tout ça. Mais des fois, il y a des gens, là, on ne voudrait pas tant qu'il accepte le Seigneur. Ça ne fait pas notre affaire. Pour vrai. Ouais, comment, là, je ne suis pas tout seul, là. Non, il y en a, là. Tu sais, le collègue de travail, le lundi matin, là. C'est comme, ah, non. Lui, je ne veux pas le voir le dimanche en plus à l'église. Mais là, Onésime, il est pogné. Philémon est pogné avec Onésime. Et là, on vient tout lire comment l'apôtre Paul, justement, j'aime ça, puis l'apôtre Paul va dire, « J'ai pas voulu prendre la décision sans te concerter. » Merci. Ça, pour vrai, ça, c'est un ami. Tu sais, des fois, il y a des amis qui t'organisent dans la vie. Ça, c'est pas des amis. Les gens, ils font comme, « Surprise! » Voici ce que comment j'organise ta vie, comment je t'ai organisé, comment j'ai décidé à ta place. Mais là, j'ai pas voulu, mais par contre, il va quand même insister sur le fait de la foi. Et j'aime ça parce que l'apôtre Paul est très, 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 des fois, diplomate, comme là. Il commence à l'être. On l'a vu la semaine passée, on a passé 35 minutes sur la reconnaissance de Paul envers Philémon. Toutes les prières de comment que c'était un bon croyant, comment qu'il faisait toutes les bonnes choses, hein? La première moitié de l'épître est juste là-dessus pour après ça arriver. Finalement, j'ai une petite demande. Ce serait le fun que tu reprennes Onésime. Ce serait le fun que tu reprennes Onésime. Là, il faut comprendre une chose. À cette époque-là, les gens qui étaient nantis avaient des esclaves. Et si tu avais un esclave, tu avais la notoriété. Et si un esclave te faisait faux bon comme Onésime, tu le laisses de côté. Tu ne reprends pas ce gars-là, c'est terminé. Il t'a fait faux bon, il t'a volé, ben, tant pis pour lui, il se ramassera où il se ramassera, on s'en fout, on en reprend un autre. Mais là, la demande de Paul, c'est pas juste de reprendre Onésime chez lui, c'est que toutes les autres, c'est Philémon, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire si je reprends, si je pardonne à Onésime, toutes les autres de mon club social vont le voir. Toutes les autres qui sont bien nantis, toutes les autres qui ont des esclaves vont faire comme, « Il a pardonné à son esclave. Tu ne fais pas ça. Tu ne peux pas pardonner. » Et là, là, les gens, les autres esclaves vont voir ça aussi. Et les esclaves vont faire comme, « Hey, moi aussi, je vais te pardonner. » C'est une première. Et l'apôtre Paul dit, « Voici. » Tranquillise mon cœur, reprends-le. C'est maintenant mon ami, c'est ton ami à toi. Il t'a déjà servi, il me sert présentement et il va te servir à toi aussi. Reprends-le. Bob Goff a dit, les gens qui m'ont appris le plus ne pensaient pas qu'ils étaient mes enseignants, ils pensaient seulement qu'ils étaient mes amis. Wow! Et des fois, pour vrai, là, on écoute qui on veut écouter dans la vie. Sérieusement. On décide qui va entrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'une personne... Et des fois, on est très gentil avec tout le monde, puis on fait comme oui. Et tu repars, tu fais comme non. Combien de fois? C'est déjà arrivé, hein? Laissez-moi pas tomber ce matin, s'il vous plaît. Tu sais, de faire comme, moi, tes conseils, tu peux les garder pour toi. Mais quand tu as des amis, des vrais amis, des personnes importantes, tu vas les écouter. Et ces personnes-là ne pensent pas qu'ils ont un impact dans ta vie au point où, et même toi, que tu as un impact dans leur vie. Et des fois, les meilleurs enseignants ne sont pas dans les universités, ils sont à côté de toi. Et c'est ça que l'apôtre Paul t'essaie de faire avec Philémon. Écoute-moi, mon ami. Écoute-moi. Parce que maintenant, ça peut changer ta vie. Dans Galates 3, 28, l'apôtre Paul va dire, il n'y a plus ni juif. Ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Le message de l'Évangile, c'est que nous sommes un. Il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de ségrégation, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus rien de tout ça, parce que c'est en Jésus-Christ l'important. Dieu nous a créés humains et veut qu'on soit un. Et l'apôtre Paul a essayé le plus possible. Et ici, il est en train de briser les barrières sociales en demandant à Philémon de reprendre Onésime et de le pardonner. Parce que c'est le message de l'Évangile. C'est ce que Jésus est venu faire. Briser les barrières, pardonner. C'est ce que Jésus a fait. Encore une fois, M. Goff dit, « Nous ne devrions pas dire que tous sont invités si nous sommes pour agir comme s'ils n'étaient pas bienvenus lorsqu'ils viennent. » Wow! Ça, c'est une de mes meilleures citations ever. J'aurais aimé ça être capable de ne pas écrire Bob Goff en dessous, mais révérend Christian Lachance. Ça aurait fait ma semaine, ma journée. Ça, je le poste sur Facebook, là. C'est comme, j'ai trouvé ça. Et combien c'est vrai, en tant que croyant, en tant qu'Église, et des fois en tant que gens qui sont dans le ministère, qui sont pasteurs, combien, on va dire, tous sont bienvenus. On accepte tout le monde, on est là pour tout le monde, mais ce n'est pas vrai en fait. Parce que qu'on le veuille ou non, des fois on est un peu comme Philémon. On fait du screening. Puis on décide, à la place de Dieu, qui Dieu va accepter. Qui Dieu va dire, toi, t'es le bienvenu. Mais si, j'aime ça, parce que ça dit, si on est pour agir comme s'il n'était pas bienvenu, pourquoi on dit que tout le monde est bienvenu? Et ça, c'est un message pour chacun d'entre nous. Parce que si on revient à la base, c'est qui? C'est Jésus. Si ça fait des lunes que vous n'avez pas lu les évangiles, je vous encourage à le faire. Et je vous encourage à regarder juste Jésus. Regardez pas les autres personnages, regardez pas Jésus. Et regardez comment Jésus était avec les gens autour de lui. Qu'est-ce que Jésus faisait? Et Jésus incluait les personnes que les autres excluaient. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, trop souvent, on est plus pharisiens que comme Jésus. On peut chanter toutes les belles chansons qu'on veut. On peut dire combien de passages on sait par cœur. Combien de temps on lit notre Bible. Combien de temps on prie. Mais bien souvent, malheureusement, on est encore loin dans notre vie de Jésus. Continuez à me suivre, s'il vous plaît. On ne part pas tout de suite. Je sais que c'est tough. Luc 15 est une de mes histoires préférées. On dirait qu'à chaque dimanche, j'ai un verset préféré, hein? Vous avez remarqué ça, vous autres aussi, hein? Je le dis, puis je vais comme, arrête, là. Il y a une de mes filles, là, elle met une playlist, puis à chaque deux tounes, c'est comme, ah, ça c'est ma toune! Non, c'est parce que tu viens de le dire, il y a deux tounes. Mais c'est tout le temps sa chanson préférée, mais c'est comme c'est toutes tes chansons préférées, arrête de le dire. Fais juste enjoy, là, à ce point-là. C'est moi, là. Le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est le cœur de Dieu. Le fils qui, justement, qui est comme Onésime. Il prend son bien sans l'avoir vraiment demandé et il sac son camp. Il dilapide tout. Et à un moment donné, il se rend compte que ça n'a pas de sens, son histoire, son affaire, que sa vie est tout croche. Puis il dit, je vais retourner chez mon père et il va me prendre comme un de ses esclaves, un de ses serviteurs. Je vais travailler dans le champ, je ne demanderai rien, je vais manger juste la même nourriture qu'il mange. Je n'aurai pas plus, je n'aurai pas moins, je vais dormir dans le même dortoir que les serviteurs, les esclaves. Lui, c'est ça dans sa tête, parce que là, il dit, ma vie est foutue. Et il retourne chez son père. Et moi, ce passage-là est comme, wow! Luc 15, 18, avant, il se dit, je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Pour moi, ce verset-là, c'est un des plus beaux versets de toute la Bible. Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose de plus pur, de plus direct de qui est Jésus. Et en fait, Paul, c'est ce qu'il demande à Philémon. Fais comme le père dans le fils prodigue. Quand tu vas voir Onésime arriver, bien que tu as de la rancœur envers lui, bien que tu voudrais juste le puncher, bien que tu ne voudrais même pas le revoir, quand tu vas le voir, cours vers lui. Reprends-le. Fais-lui grâce. Parce que tu as une dette. L'apôtre Paul dit, tu as une dette envers moi, c'est ta vie. Wow. Pourquoi? Parce que je t'ai apporté la vie en Jésus. Et maintenant, accueille-le comme quand Dieu t'a accueilli. Parce que toi non plus, juste te rappeler que tu es le maître d'esclaves. Ça se fait pas, mon chum, de traiter les humains comme ça. Mais même si tu es un maître d'esclaves, Jésus t'a accueilli à bras ouverts. Maintenant, accueille Onésime à bras ouverts. Qui vous avez besoin d'accueillir aujourd'hui? C'est qui votre Onésime dans votre vie? Je pourrais finir là. Ça serait comme solidement bon, là. Un matin, là, c'est du stock, là. Mais on va continuer. Matthieu 18, verset 21-22, il dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En fait, ça, c'est la réponse comme bien cool, bien lichée de Jésus. Moi, j'essaie de me mettre des fois dans la peau des personnages quand je lis. Puis voir, mettons, c'est quoi son mood? À quoi il pensait vraiment avant de parler? Je sais que présentement, vous dites, tu fais vraiment ça? Je fais vraiment ça. C'est ça qui est ça. Et là, je me suis mis à la place de Jésus quand Pierre s'est approché de Jésus. Je dis, Seigneur, encore Pierre, come on. Hein? Il n'y en a pas un autre qui a posé cette question-là, mais Pierre fait comme, moi là, il y en a une couple que je ne veux pas pardonner. Fait que, on se pose une question. On va jusqu'à 7 fois, Seigneur? D'après moi, la réponse que Jésus aurait voulu donner, mais qu'il n'a pas donnée, il aurait regardé Pierre et fait comme, « C'est vraiment une question, ça? » D'après moi, ça, c'est la réponse de Jésus officielle. Elle n'est pas dans la Bible. C'est comme, tu poses vraiment cette question-là, Pierre. Come on. 7 fois? Je vais te dire l'infini. Multiplie 7 fois, 77 fois, 177 fois, 777 fois. Multiplie ça tant que tu veux. C'est à pardonne. Et des fois, on a cette difficulté-là de pardonner parce qu'on pense qu'il faut automatiquement devenir le meilleur ami de la personne qu'on pardonne. C'est pas ça. La femme adultère, quand elle a été prise, puis Jésus est arrivé, puis il a dit, tes détracteurs sont partis, il y a juste toi, puis moi non plus, je te condamne pas. Il va dire une chose, je te pardonne, mais va. Il n'a pas dit, à partir de maintenant, par contre, si je te pardonne, voici le contrat. Lis bien les petits astérix dans le bas, parce que t'es pogné pour un bout, là. C'est pire qu'un contrat de sel, là. C'est comme, tu veux pas ça. Parce que là, t'es pogné avec moi. Tu me dois. Voici ce que tu me dois. Voici ce que tu vas devoir faire pour rembourser ta dette si je te pardonne. Non? C'est fini. On n'en parle plus. Let's go. T'es pas obligé de me suivre. T'es pas obligé d'être mon disciple. T'es pas obligé de dire « Jésus, je t'aime ». Je te pardonne. Après ça, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Je te laisse aller. Et des fois, on a de la difficulté avec le pardon parce qu'on pense justement qu'il faut automatiquement que cette personne-là fasse encore partie de notre vie, que cette personne-là soit là à la vie, à la mort, qu'on fait un pacte de sang quand on pardonne quelqu'un. Non! C'est relâcher la personne. C'est ça, pardonner. C'est relâcher la personne. C'est la plus belle liberté qu'on peut se donner, c'est de relâcher les Onésimes dans nos vies. Dans Romains 8, 1, verset avec lequel on a beaucoup de difficultés, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est terminé. Mais souvent, il n'y a plus de condamnation. Dieu ne met plus de condamnation sur nous, mais nous mettons une condamnation sur les gens. Et là, le problème. On condamne des gens que Dieu a pardonnés. Onésime. Philémon aurait aimé ça que Paul fasse comme « Je l'ai pogné, ton chum. Je l'ai envoyé en prison. Il va pourrir longtemps. Tu peux être content, Philémon. Dors tranquille. » La dernière chose que Philémon se serait attendu, c'est que « Non, maintenant, tu me connais, je suis ton ami, je t'aime, mais justement, je connais ta foi, je connais ton amour pour Dieu, je connais comment est-ce que tu es bon avec les croyants. Maintenant, c'est peut-être le temps de reprendre Onésime. » De lui pardonner. Et des fois, on est bien à l'aise avec plein de choses dans notre vie chrétienne à l'Église, des choses qu'on fait, des choses qu'on peut être applaudi pour, des choses qu'on va être reconnu, des choses dans lesquelles on s'en laisse. Puis, tu sais, on fait comme, oui, voici ce que je fais au nom de Dieu. Mais malheureusement, c'est des trucs, des fois, que Dieu, pas qu'il s'en fout, mais c'est pas prioritaire dans sa vie. Mais les choses qui sont prioritaires pour Dieu, c'est celles qu'on laisse de côté, comme pardonner Onésime. Comme relâcher Onésime. Ça, c'est les prioritaires pour Dieu. Mais nous, non. On va servir, on va faire telle affaire, on va bien paraître, on va dire les bonnes choses, on va être à l'heure à l'église le dimanche matin. Mais il y a bien des petites choses dans nos vies qu'on laisse de côté. Pourtant, c'est celle-là que Dieu met le follow spot, que Dieu dit ça, c'est important, mais ces choses-là, on les met de côté dans nos vies. Encore, M. Goff, il est tout le temps là, matin, voyons. Nous n'avons pas besoin d'essayer de contrôler l'œuvre que Dieu fait dans la vie des autres. Deuxième citation que j'aurais voulu écrire ce matin. On n'a pas besoin de contrôler l'œuvre que Dieu fait dans la vie des autres. On n'a pas besoin de le faire. Et pourtant, malheureusement, c'est comme si on a un vilain plaisir à le faire. On voudrait tant contrôler la vie des autres. Ben, ça nous sécurise. Qui aime ça, ne pas être en contrôle? Parfait, tout le monde, on est sur la même place. Il n'y a personne, tout le monde veut avoir un contrôle sur sa vie, un contrôle sur ses finances, un contrôle sur tout, et on veut avoir un contrôle sur ce que Dieu fait dans notre vie, et encore plus sur ce que Dieu fait dans la vie des autres. Voici comment. Moi, je me souviens quand j'ai accepté Dieu à l'âge de 18-19 ans, je suis entré dans l'église, les premières personnes qui m'ont parlé, c'est voici les choses qu'il faut que tu changes pour être un bon chrétien. C'est pas mal l'une des choses. Et honnêtement, ce screening-là aurait pu faire en sorte que je ne revienne plus jamais à l'église. Je ne sais même pas pourquoi je suis resté. Encore un matin, je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est possible. Des choses étranges dans la vie. Mais ça aurait pu faire en sorte que je ne revienne plus jamais. Je suis resté. Mais des fois, c'est comme ça. On aime ça, contrôler l'œuvre que Dieu fait. Au lieu de faire comme, hein? Il y a deux semaines, ce gars-là, il était semi dans la rue, puis là, il vient à l'église. Toute seule. Il fait une heure de marche pour venir ici à matin. What? OK, il se passe de quoi? Non. OK, là, prochaine étape, on se coupe les cheveux. On ne met plus de jupe pour venir à l'église. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai déjà porté une jupe. Fait que, ouais. Là, tu dis, OK, c'est pour ça que quand tu lis des textes, tu te mets à la place des personnages. Ouais, OK, toi, t'es... Hein? Il y a beaucoup de choses comme ça que la majorité des gens ne savent pas. Ça, c'est bien longtemps, là. Fait que vous ne voulez pas savoir, ça fait combien de temps, parce que ça va vous dire mon âge, vous ne voulez pas savoir mon âge, je ne veux pas que vous sachiez mon âge non plus. Mais on aime ça contrôler. Au lieu de se réjouir de voir que Dieu agit dans la vie de quelqu'un, on préfère contrôler la vie de quelqu'un en pensant que c'est ce que Dieu veut. Mais encore une fois, on a manqué les passages. Il dit, ça ne t'appartient pas. C'est la job du Saint-Esprit. C'est lui qui est venu pour convaincre de péché, de justice. C'est sa job à lui. Moi, là, je ne la veux pas, sa job. C'est une job de fou. 24/7 sur la surface de la Terre, des milliards de personnes à gérer. Penses-tu sérieusement que je veux ça? Je ne la veux pas, sa job. Mais malheureusement, des fois, on met notre petit soute. S-E. Saint-Esprit. Moi, je vais te le dire, ce que tu dois faire dans ta vie. Moi, je vais t'agérer ta vie. Le problème, finalement, se poser des questions, à savoir, Onésime, hey, Paul, toi, ça fait combien de temps que tu le connais, juste by the way, même, là? Une couple de semaines, une couple de mois? Hey, moi, je l'ai eu pendant des années comme esclave. Tu veux pas l'avoir. C'est pas vrai que c'est ton ami. As-tu vraiment changé, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il me prouve? Là, c'est une lettre? As-tu une photo avec ça? Qu'est-ce qui me prouve que ce gars-là a changé? Comment, pourquoi je vais le reprendre? Puis moi, sérieusement, je vais pardonner ce gars-là? Hey, tu le connais pas? Et probablement que Philémon aurait aimé ça, contrôler la vie d'Onésime aussi. Et Paul fait comme ça. Fais juste le pardonner. Reprends-le. Puis, by the way, prépare-moi une chambre, je m'en viens. Là, on prie assez, là, je le feel. Là. Je vais sortir de prison. Et c'est la fin de la vie de l'apôtre Paul. Et il dit, je suis un vieillard. C'est plus l'apôtre Paul qui veut justement, comme, go, on va conquérir le monde, on va aller en Asie, on va aller à tel endroit, on va démarrer des églises. Là, il arrive à la fin de sa vie, puis il y a un autre regard sur la vie des gens autour de lui. Et pour lui, le maintenant, là, c'est pas, Philémon, by the way, c'est quoi ton plan d'évangélisation pour les 5 prochaines années? Combien de personnes t'as baptisé dans les 6 derniers mois? Pour le focus de l'apôtre Paul, là, c'est, hey, c'est un miracle, ce gars-là, il est atterri sur ma route. Je sais que c'est ton esclave. Il a accepté Dieu. Prends-en soin. Cette personne-là, le focus de l'apôtre Paul, c'était plus sur bouleverser le monde. C'était comme l'œuvre de Dieu dans cette personne-là est incroyable. C'est ça le focus de l'apôtre Paul. Dans Romains 12, versets 17 à 18, ça dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ça, c'est un contrat. Si ça dépend de toi, fais tout en ton pouvoir pour être en paix avec tous les gens que tu côtoies. Wow! Souvent, ce n'est pas notre focus dans la semaine. Là. Le focus dans la semaine, c'est voici toutes les choses que j'ai à faire, plus essayer d'être un bon chrétien. Mais être en paix avec tous les hommes, avec les gens autour de moi, nous n'ont pas tant. Et pourtant, ça fait partie. Ça devrait faire partie prioritaire de nos vies. Bien plus qu'une multitude de choses qu'on fait où on s'attarde et on fait comme, si je fais ça, Dieu va m'aimer plus. Si je fais ça, je vais être vu comme un meilleur chrétien auprès des gens. Mais des fois, être en paix avec tous les hommes, ce n'est pas quelque chose de glamour. On n'arrivera pas un matin, puis Émilie a fait les annonces, et en bas, et en passant, elle est en paix avec tous les gens autour d'elle. Bravo, Émilie! On ne fait pas ça. Il n'y a personne qui le sait. Il y a juste toi et Dieu qui le sait. Les choses les plus importantes dans nos vies, il y a juste Dieu et nous qui le savons. Et malheureusement, des fois, c'est dans ces choses-là qu'on manque. Parce qu'on est plus dans « faut bien paraître, voici comment je vais être un bon ». Non. Les choses où c'est là que ça se passe, avec Dieu. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Henry Nguyen a dit, « Lorsque nous devenons complètement libres du besoin de juger, nous devenons également complètement libres de la peur d'être jugés. » Hey, 3 en 3 ce matin, là, j'aurais voulu écrire. Il y a de la citation au pied carré, là. Lorsque nous devenons complètement libres du besoin de juger, nous devenons également complètement libres de la peur d'être jugés. Parce que qu'on le veuille ou non, qui, encore une fois, il y a beaucoup de questions aussi ce matin. Il n'y a pas dimanche prochain, il n'y a pas un examen. Là. Vous n'avez pas tout à étudier cette semaine, mais Encore une fois, on a tous, à quelque part, la peur d'être jugé. Qu'est-ce que telle personne, quel groupe de personnes, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que cette personne-là va penser? Qu'est-ce qu'elle va dire de si je fais ça, si je fais pas ça, si je dis ça, si je dis pas ça? Et on a tous peur et on se forge une vie avec la peur d'être jugé à quelque part. Pour certaines personnes, ça va même à vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Pour se protéger, bien, on juge les autres. Parce que ça nous donne du pouvoir. Ça nous rehausse, nous. Voici comment cette personne-là n'est pas assez. Fait que moi, je suis plus que. Mais quand on se libère de juger les autres, on est libre de ne plus être jugé, de la peur d'être jugé. Et ici, finalement, c'est son combat. Il faut qu'il décide, est-ce que je vais écouter mon ami Paul? Est-ce que je vais pardonner Onésime? Est-ce que je vais le reprendre? Qu'est-ce que mes amis riches, mon club social, va penser? Il a pardonné son esclave. Wow! Ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Nous autres, moi, je vais être obligé de faire la même affaire. Mais s'il le fait, il va devenir libre. Libre d'être jugé. Parce qu'il va avoir choisi de ne pas juger. L'apôtre Paul termine sa lettre avec cette phrase qui résume tout. Au verset 25, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Parce que quand tu choisis la grâce, c'est là que tu es libre. Et c'est ça que Paul veut juste, à la fin, juste dire. Oublie tout ce que je viens d'écrire et souviens-toi de la dernière phrase. Il termine en beauté. Si j'accepte, je réalise que la journée, je n'étais pas en état de venir à Dieu, mais Dieu, j'étais le fils prodigue, Dieu m'a repris là où j'étais. Dieu m'a fait grâce. Et si ce même Dieu-là qui m'a fait grâce est dans ma vie, ce qui devrait émaner, ce qui devrait transcender, ce qui devrait sortir de ma vie, c'est cette même grâce-là. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Et Seigneur, que ton esprit ce matin puisse juste mettre en lumière les onésimes ou l'onésime dans notre vie présentement. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Te remercier, Seigneur, parce que tu nous as encore aujourd'hui. Même si ça fait des semaines, des mois, des années qu'on est avec toi, on n'est pas parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'est pas acceptable dans ton royaume, mais tu nous acceptes quand même. Tu nous reprends quand même aujourd'hui. Et même lorsqu'on pense qu'on est tellement bon, tellement incroyable, tellement beau, tellement belle, tellement fin, tellement fine, on ne l'est pas tant que ça. C'est à ce moment-là qu'on a juste besoin de réaliser que c'est seulement par ta grâce. Et que si on expérimente cette grâce-là, on devrait la faire expérimenter aux gens autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, on va terminer avec un chant.